السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس وقت میں آپ کو صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام.
Aujourd'hui, encore une fois, je vais vous présenter des récits des compagnons du Messie promis alayhi salam. Des récits qui concernent leur baïra ou leur serment d'allégeance. Le premier récit est de Mohammad Shah Saheb qui rapporte, qu'il avait évoqué un premier récit . Ce récit concerne la période avant qu'il ne soit Ahmadi, avant qu'il ne rencontre le Messie promis alayhi salam. Il déclare qu'il est un Sayyid, c'est-à-dire un descendant du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et il disait que, selon moi, un Sayyid n'avait pas besoin de prêter allégeance sur les mains de quiconque. Il rapporte que je savais que le Messie promis l'Islam disait la vérité, mais je ne lui ai pas prêté allégeance, car je disais qu'un Sayyid n'avait pas besoin de prêter allégeance aux mains de quiconque. Voilà mon idée pour quelque temps. Mais quand on faisait les éloges du Messie promis l'Islam, quelque part, j'écoutais cela avec intérêt. J'écoutais ses éloges avec intérêt et lorsqu'on lui était hostile quelque part, je quittais cette réunion. Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire à un autre que tu es sans maître et sans guide. Et je me suis dit que être sans maître et sans guide est une insulte. Et moi-même, je suis sans un guide, sans un maître. Est-ce que les Sayyids sont des exceptions? Alors que certains grands Sayyids ont prêté allégeance sur les mains de non-Sayyids. Ils avaient prêté allégeance sur les mains de non-Sayyids pour être bénis. Ainsi, j'avais des soucis à ce sujet, mais par sottise, je n'ai rien demandé à personne. Mais j'avais ce but en tête et j'ai commencé à réciter des incantations et des prières. Je répétais ces prières dans le but de trouver un guide parfait qui soit un Sayyid. Il cherchait un tel guide qui soit un descendant du prophète, un Sayyid. Ainsi donc, pour une longue période, je me suis consacré à ces prières, à ces incantations. Je partais pour des retraites spirituelles dans des cimetières. Je partais sur des mausolées et des fois, pendant la nuit, je partais dans des endroits secrets pour prier. Ces retraites spirituelles duraient des fois 40 jours. Un jour, désespéré, je me suis endormi. Et dans un rêve, j'ai vu un sage qui s'est adressé à moi. Et il m'a dit que le guide que tu vas trouver sera le guide de tout le monde. Et tous les autres guides vont disparaître. J'étais satisfait et j'avais cette certitude que je trouverais certainement ce guide parfait. En fin de compte, en 1905, dans un rêve, j'ai vu une scène. Je me suis vu dans un grand terrain. Un grand terrain qui a été nettoyé. Et c'était très propre et il y avait une estrade. Une estrade qui était digne d'un roi. Et quelqu'un m'a dit qu'aujourd'hui, les prophètes vont se réunir ici. Et le saint prophète, Mohammed, paix soit sur lui, va placer sur le trône son fils bien-aimé. Et j'étais très content. Et j'ai couru vers cette estrade. Et je me suis placé devant l'estrade. Et j'étais tout essoufflé. Et après quelque temps, ce terrain fut rempli de nobles personnages avec des visages éclairés. Et tous regardaient vers le haut. Et moi aussi, j'ai commencé à regarder vers le haut et j'ai constaté qu'il y avait comme des berceaux qui flottaient en l'air comme des avions. Et dans certains de ces berceaux, il y avait un homme, dans d'autres, il y avait deux femmes, ou un homme et une femme, ou un homme et deux femmes. Et tous ces berceaux flottaient en l'air. Et j'ai compris que ces personnes étaient tel ou tel prophète. Et il y avait aussi les épouses de ces prophètes. Par exemple, il y avait Ève, il y avait Hajra, Mariam, Bibi Fatima, Khadija, radhiyallahu anha. Toutes étaient présentes. Et il y avait tous les prophètes qui étaient présents en compagnie de leurs épouses. Et tous se sont assis sur leurs chaises. Et tous attendaient, tout comme le vendredi, dans la mosquée Aqsa à Qadian, on attend la venue du deuxième calife. Et des fois, on se tournait vers le ciel. Et on disait que le père et le fils viendront. Et après quelque temps, un berceau est descendu. Un berceau qui était plus décoré que les autres. Et le saint prophète Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, en compagnie de Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, le Messie premier islam, sont descendus, et ils sont descendus sur l'estrade, et il y avait deux chaises sur l'estrade. Ils se sont assis sur les deux chaises. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et par la suite, le Messie promis, ont présenté leur salutation. Et le saint prophète a prononcé le premier discours et il a déclaré que « Aujourd'hui, je suis en train de vous présenter mon fils et je vous avais déjà informé et je vais le placer sur le trône. » Ensuite, le Messie promis a prononcé un discours. C'est là que j'ai compris le sens du terme « Sayyid » et en voyant son visage, j'ai constaté que c'était la même personne que j'avais vue sur la gare à Ludhiana. Grâce à ce rêve, j'ai compris c'est quoi le statut d'un véritable Sayyid. Et le lendemain, j'ai écrit une lettre pour prêter allégeance au Messie promis alayhi salam. Et il dit qu'Allah bénisse le Messie promis alayhi salam. Hadrat Muhammad Ali Saheb, fils de Ghami Khan, rapporte que ce fut en 1903 ou en 1904, au cours de l'épidémie de la peste, que j'ai prêté allégeance. Ce fut en été qu'il avait prêté allégeance aux mains du Messie premier, alayhi salam. Il déclare que mon père a prêté allégeance en premier, il est moussi, il a été enterré à la Baishti Magbara. Dans un rêve, il a vu qu'il avait jeté un filet. Il avait jeté un filet et dans ce filet, il a attrapé trois colombes. Et le Molvi Boutekhan a interprété ce rêve en disant que ses fils vont embrasser l'Ahmadiyya. Et ainsi, par la suite, ses trois fils sont devenus Ahmadis. Hadrat Molvi Sher Ali, Radio Talanhum, déclare qu'il avait prêté allégeance en 1906. Celui-ci est un autre Molvi Sher Ali. Il déclare que j'étudiais le Saint-Coran avec Molvi Muhammad Ali et Molvi Jalaluddin. Et c'est par les efforts de Molvi Jalaluddin que j'ai prêté allégeance aux mains du Messie promis à l'Islam. Molvi Muhammad Ali nous a prêché le message de la communauté et j'ai fait la prière istikhara pendant 40 jours. Et j'ai répété cette prière, Ya Khabiru Akhbirni. Et on m'a informé que celui qui a fait cette déclaration est véridique. Mais plusieurs personnes avaient fait des déclarations et je ne savais pas, on parlait à propos de qui. Et le lendemain, on a dit que celui qui a fait cette proclamation est véridique. Et la troisième nuit, on m'a informé que celui qui a fait cette déclaration akkadienne est véridique. C'est là que je lui ai prêté allégeance. Et c'est grâce à des rêves, encore une fois, que j'ai prêté allégeance aux mains du deuxième calife. Il y a eu des troubles avant le deuxième califat, et c'est grâce aux rêves qu'il avait vus qu'il avait prêté allégeance aux mains du deuxième calife. Hadrat Sheikh Mohammad Hayat Saheb rapporte que j'ai prêté allégeance sur les mains du Messie promis en 1903. Molvi Nur Mohammad Saheb m'avait prêché le message de la communauté. Sheikh Saheb rapporte que dans un rêve, j'ai vu que j'étais dans la cour de la maison et j'ai vu un objet qui ressemblait à la lune et on m'a fait comprendre que c'est Ahmad de Qadian. Mais dans le rêve, je me suis dit que ceci n'est pas vrai. Et je me suis réveillé, j'ai rapporté le rêve à Molvi Nur Muhammad. Il m'a dit que les pensées que tu as eues au cours de ce rêve sont de la part de Satan. Et c'est là que j'ai fait la baïra. Hadrat Abdurrahim, fils de Qadir Bakhsh, rapporte que en 1906, j'ai eu ce grand désir de visiter Qadian. Dans notre famille, il n'y avait que mon oncle, Mohammad Ismail, fils de Mohammad Ismail, et son fils, Mohammad Abdullah, qui était Ahmadi. C'était ma tante qui était plus sincère. Et c'est elle qui avait poussé mon oncle et son fils à visiter Qadian pour prêter allégeance aux mains du Messie promis, alayhi salam. Et moi, j'étudiais le Saint-Coran avec mon oncle. Et j'écoutais ce qu'il me disait. Il me citait des exemples. Il m'a dit que tu es comme mon fils Abdullah. Il a déclaré, écoute ce que j'ai à dire. Les gens sont en train d'insulter Mirza Saheb, mais sa jamaat est en train de progresser. Il a dit, regarde par exemple, dans un champ, autant qu'on va placer de fumier, autant le champ sera verdoyant. Ces gens peuvent l'insulter, mais sa jamaat va progresser davantage. Nous devons remercier Dieu des milliers de fois. En dépit de ces gens malveillants, nous avons eu l'occasion d'accepter le Messie promis à l'Islam. Mon oncle et ma tante m'aimaient beaucoup et ils me disaient que tu dois certainement partir à Qadian. Et ce désir n'a fait que grandir en moi. Un jour, ils m'ont dit que nous allons payer une partie de tes frais de voyage, mais tu vas devoir payer l'autre partie. Ainsi, ils ont encouragé cet enfant à partir pour Qadian, mais il devait payer une partie de son voyage. Le rapporteur déclare que chaque vendredi, je recevais la somme d'un païsa. Comme argent de poche, je recevais la somme d'un païsa. C'était une grosse somme à l'époque. Ainsi, au cours d'un mois, j'ai pu économiser un anna. Il y a 4 païsas dans un anna. Et je ne savais pas combien j'avais avec moi. Mais en tout cas, j'ai confié cette somme à mon oncle. Et mon oncle a payé le reste. Ainsi, il voulait faire comprendre à cet enfant qu'il allait visiter le Messie promis l'Islam, mais qu'il devait faire quelques sacrifices. Et c'est ainsi qu'ils lui ont donné cette habitude. En tout cas, en 1907, il a pu économiser cette somme modique. Et son oncle a payé le reste. Il déclare qu'en 1907, je suis parti à Qadian avec la sœur de Mohammed Abdullah. Et c'est ici que je suis devenu un véritable musulman. Et je me suis joint à la Jamaat. Et je remercie Allah pour cela. Abdou Sattar, fils d'Abdullah Saheb, rapporte que j'ai demandé à mon père à propos de la mort de Jésus-Christ. Il a dit à son père qu'on dit que Jésus-Christ est vivant. Le fils n'était pas encore Ahmadi, son père était Ahmadi. Le fils lui a dit que je sais que Jésus-Christ est vivant, je ne connais rien à propos de sa mort, explique-moi cela. Et mon père m'a rapporté un rêve. Il a déclaré que j'ai vu que j'étais au bord d'une rivière et j'ai vu qu'il y avait deux tentes. Une des tentes était celle du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et la deuxième celle du Messie premier alayhi salam. Je suis entré dans la tente du saint prophète et je lui ai dit qu'il y a cette personne qui se dit être le Messie. Comment est cette personne? Le saint prophète a répondu que c'est une personne très capable. C'est une personne très capable. Il a répété cela à trois reprises en indiquant dans sa direction. Après ce témoignage, j'étais sûr et certain que le Messie premier alayhi salam était véridique. Et la question de la mort et de la vie de Jésus-Christ n'a aucune importance pour moi. Le Père a déclaré que j'ai vu ce rêve, c'était un rêve très clair et c'est pour cette raison que je ne me soucie pas de la question de la mort de Jésus-Christ. Ce témoignage du saint prophète suffit pour moi. C'est pour cette raison que j'ai prêté allégeance aux mains du Messie promis. Hadrat Chaudhry Nizamuddin Saheb, fils de Nabi Bakhsh, rapporte qu'il y a eu une troisième épidémie de peste et il y a eu l'épouse d'un Molvi qui est sortie d'un village. Elle fut accompagnée de 5 ou 6 femmes qui avaient peur de la peste. Et dans un grand froid, alors qu'il pleuvait, ils sont partis voir le Messie premier alayhi salam pour lui prêter allégeance. Il y avait donc cette épidémie de peste et ces 5 femmes sont parties à Qadian en dépit d'un grand froid, en dépit de la pluie, parce qu'elles craignaient la peste. Elles sont parties voir le Messie premier alayhi salam pour lui prêter allégeance. Le Messie premier alayhi salam a vu l'état déplorable dans lequel elles étaient. Et avec grande gentillesse, il a fait le nécessaire pour elles. Ainsi, il leur a fait offrir des vêtements secs. Et il a fait préparer du feu pour elles. Lorsqu'ils étaient plus confortables, elles ont demandé au Messie premier alayhi salam la permission d'accepter leur allégeance. Le Messie premier alayhi salam a accepté leur allégeance et elles se sont jointes à la communauté. L'épouse du Molvi Saheb a transmis au Messie premier alayhi salam la salutation du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'épouse de ce Molla était instruite et après avoir prêté allégeance aux mains du Messie premier alayhi salam, elle a transmis au Messie premier alayhi salam les salutations du saint prophète, paix soit sur lui. Et le Messie premier alayhi salam était très content et il a déclaré que jusqu'aujourd'hui, personne ne m'a transmis ce message du saint prophète. Ensuite, ces personnes ont demandé quelque chose au Messie premier alayhi salam pour garder comme souvenir et comme bénédiction. Chaudhry Haji Ayaz Khan, qui fut missionnaire en Hongrie, rapporte un incident qui concerne son père. Son père était Chaudhry Karamdin, radiyallahu anhu. Son père lui a rapporté ce récit. Le père rapporte ceci et il déclare qu'on a entendu parler que le Messie premier alayhi salam allait venir à Jhelum. Il rapporte que ta mère, Hussein Bibi, a vu dans un rêve que cette personne qui allait venir à Jhelum est véridique, alors que les gens lui sont hostiles. Ainsi donc, le matin, ta mère m'a dit que ce sera très bien si tu pars rencontrer cet homme, c'est-à-dire le Messie premier alayhi salam, afin que tu lui prêtes allégeance. Le jour où le Messie premier alayhi salam est venu à Jhelum, il y avait des foules sur la gare. Les gens s'étaient réunis la veille pour essayer de voir le Messie premier alayhi salam. Ainsi, il m'était difficile de le voir. Et le jour du procès du Messie premier alayhi salam, je suis parti au tribunal et ta mère m'a préparé du pain et j'en ai consommé et je suis parti à pied à Jhelum. Et je suis arrivé dans la cour du tribunal avec grande difficulté, car les gens faisaient tout pour essayer de voir le Messie promis à l'Islam. Dans la cour du tribunal, il y avait des Maulvis, des Ahmadis, qui étaient en train de prodiguer des conseils et qui invitaient les gens vers l'Ahmadiyya. Dans la langue Punjabi, il disait « Ô homme, ô créature de Dieu, ce Messie véridique est venu, ce Mahdi véridique est venu. Ce Messie et ce Mahdi que vous attendiez pendant si longtemps, il est venu, acceptez-le. » Les Ahmadis de Karyan étaient partis à Jhelum. Lorsque le Messie premier l'Islam est entré dans le tribunal, après quelques minutes, il en est sorti et il y a eu un grand brouhaha. Parce qu'il a été innocenté. Et le Messie premier l'Islam a pris sa voiture pour partir à la gare. Et je me suis dit, comment est-ce que je pourrais parler avec le Messie premier l'Islam pour lui prêter allégeance? Je ne sais pas dans quelle direction allait partir le Messie premier l'Islam. C'est pour cette raison que j'ai couru directement à la gare. Le Messie premier l'Islam est entré dans le train et la police a fait sortir tout le monde de la gare. Partout où je regardais, là où partait mon regard, il n'y avait que des hommes et des foules. La police a voulu me faire sortir du quai et j'ai rencontré une personne qui travaillait dans la gare qui s'appelait Abdullah. Il était d'un village quelconque et je connaissais cette personne. Je lui ai dit, fais quelque chose pour moi afin que la police ne me repousse pas. Et je dois regarder mes assables de très près. Et Abdullah a placé dans ma main un drapeau de la gare. Il y avait un autre drapeau dans sa main et il a placé l'autre dans ma main. Et nous avons commencé à marcher sur le quai comme si moi aussi je travaillais pour la gare. Il n'y avait que quelques personnes sur le quai. Et je suis parti voir la voiture du Messie premier l'Islam. Il a fait sortir sa montre. Il a dit qu'il reste 10 minutes. Inviter les gens qui veulent me prêter allégeance. J'ai entendu le terme « Bayra » de sa bouche et je me suis mis à côté de sa fenêtre. Il y a quelqu'un qui a invité les gens pour venir lui prêter allégeance. Et les gens ont commencé à venir et moi je me suis présenté vers le Messie premier l'Islam. Il m'a demandé « Est-ce que tu veux me prêter allégeance ?» Je lui ai dit « Oui, certainement ». Ainsi, le Messie premier l'Islam a pris ma main dans la sienne. Il a récité la kalima et il a répété plusieurs paroles. Par exemple, le fait que je ne vais pas commettre le shirk et mentir. Lorsque le Messie premier l'Islam a pris ma main et lorsque l'autre a invité les gens, toutes ces personnes qui étaient à côté ou qui étaient à l'extérieur de la gare sont tous venus vers le quai. Ils ont rempli le quai. Et le Messie promis l'Islam a dit que placez vos mains sur celui-ci. Ma main était dans la main du Messie promis l'Islam et le Messie promis l'Islam a déclaré que posez vos mains sur son bras. Et quelques personnes ont placé leurs mains sur mes bras. Et le Messie promis l'Islam a dit placez vos mains sur son épaule. Et ainsi, il y a eu toute une chaîne de personnes derrière moi. Je ne savais pas combien de personnes se trouvaient derrière moi. Et le Messie promis l'Islam a cramponné fermement ma main. Et ses yeux étaient presque fermés. Et son turban était blanc comme de la neige. Quand le Messie promis l'Islam a accepté notre allégeance, il a fait sortir sa montre. Et il a regardé. Il a dit qu'il ne reste qu'une minute. Les gens doivent s'écarter du train afin qu'il n'y ait pas d'accident. Voilà donc en quelques mots ce qu'avait dit le Messie promis à l'Islam. Ainsi, les gens ont commencé à s'écarter de la voiture. Mais moi, j'ai attrapé la porte et la voiture a commencé à rouler lentement. Et je regardais le Messie promis à l'Islam avec envie. et il m'a tapé sur le dos. Il a dit que Allah sera votre gardien. Ainsi, je suis descendu du train. C'était quelque chose d'étrange et de sublime. C'est peut-être le jour de la résurrection que l'on pourra voir autant de personnes. Les gens s'étaient cramponnés aux arbres, les gens étaient partout. Et le rapporteur a dit que mon père avait 52 ans lorsque il lui avait prêté allégeance. Hadrat Mola Dad rapporte qu'en 1880, alors que j'avais 10 ou 11 ans, j'ai vu dans un rêve qu'il y avait un grand groupe de personnes et il y avait quelqu'un qui guidait ces personnes, leur leader. Celui qui était en train de les guider était leur leader et il répétait des paroles en langue persane et tous répétaient autre chose en langue persane. Ainsi, ils sont entrés dans une forteresse. Cette personne disait les sept cieux et les sept terres. C'est moi qui suis leur créateur. C'était là une indication concernant la création d'une nouvelle terre et d'un nouveau ciel. En tout cas, il a vu cela dans ce rêve. Et il a déclaré qu'en 1906, mon frère Abdul Hakim a eu une fièvre terrible. Et nous sommes partis voir un mollah qui était aussi un médecin, mais il était hostile envers la communauté. Son frère Shamsuddin était Ahmadi quant à lui. Il habitait dans un village quelconque et nous sommes partis voir ce médecin. Mais celui-ci a insulté le Messie promis l'Islam. Et moi, je n'étais pas présent. Mon frère qui était malade l'a empêché de prononcer de telles paroles. Mais quand je suis venu, le mollah était parti. Mon frère m'a dit que je ne veux pas me faire traiter par ce médecin. Il a utilisé des paroles insultantes à l'égard du Messie promis l'Islam. Et le médecin lui-même est mort de la peste alors qu'il retournait chez lui. Je suis parti à Bahawalnagar et mon frère a été traité par deux médecins. Ces derniers ont tout fait pour le faire traiter, mais ils ont déclaré que ce n'est pas la peine de dépenser votre argent, il va mourir de toute manière. Il y avait donc cette épidémie de peste. Le mollah qui avait insulté le Messie promis l'Islam lui-même est mort de la peste. La maladie de son frère n'a fait que prendre de l'ampleur et lorsqu'il est parti à Bahawalpur, les médecins ont dit qu'ils ne peuvent rien faire. C'est là qu'après un an, j'ai écrit au Messie promis l'Islam. Le Messie promis l'Islam m'a répondu en disant que « Ne vous souciez pas, Allah peut faire revivre les morts. Nous allons prier pour lui, vous aussi priez pour lui. » Inch'Allah, il va retrouver sa santé. Et le lendemain, j'ai constaté que mon frère a commencé à se rétablir et il n'avait plus de fièvre. Il s'est assis sur le lit et mon frère m'a dit que maintenant ma poitrine ne brûle plus. Et je dis que j'ai écrit au Messie promis l'Islam et le Messie promis l'Islam a dit que nous allons prier pour vous. Allah va vous accorder la santé. Et il a déclaré que certainement je ne vais pas mourir car le Messie a fait revivre un mort. Et il a accepté le Messie promis l'Islam et il a été complètement rétabli. Alors qu'il n'était pas Ahmadi, il n'aimait pas entendre des paroles insultantes à l'égard du Messie promis l'Islam. Hadrat Sufi Nabi Bakhsh Saheb rapporte que lorsque le Messie promis l'Islam est entré dans la mosquée, lorsque j'ai regardé son visage, j'ai reconnu le Messie promis l'Islam et j'ai compris que c'était la même personne que j'avais vue dans mon rêve alors que j'étais étudiant en septembre 1882. Le Messie promis l'Islam portait ce jour-là les mêmes vêtements qu'il portait dans le rêve. Hadrat Molvi Imamuddin Saheb Faiz, fils de Molana Badruddin, rapporte que j'ai embrassé l'Ahmadiyya par l'entremise d'un rêve. Un rêve que j'ai fait après la prière istikhara. Alors que j'étais à Batala, je suis parti à Qadian pour rencontrer le Messie promis alayhi salam. Et à Qadian, j'ai dit au Messie promis alayhi salam que seuls les prophètes reçoivent des révélations. Et vous dites vous aussi recevoir des révélations. Et le Messie promis alayhi salam a dit que même les abeilles reçoivent des révélations. Said Abdul Qadir Jilani, Sheikh Ahmad Sarhandi et d'autres ont dit que même les amis d'Allah reçoivent des révélations. J'ai dit que je ne suis pas venu faire un débat avec vous. Je vais suivre la méthode des soufis et je vais vous accepter si je vois des rêves à ce sujet ou si je reçois des révélations à ce propos ou si je vois le saint prophète dans un rêve. Il a déclaré que je ne suis pas venu faire un débat avec vous. Je vais vous accepter si je vois des rêves vrais, si je reçois des révélations ou si je vois le saint prophète en rêve. Je suis tout simplement venu vous voir pour cela. Le Messie promis l'Islam a dit, faites la prière, istikhara. Il a déclaré, suivez la méthode du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et demandez à Dieu de vous guider. J'ai demandé au Messie promis l'Islam, comment vais-je faire cela? Il a déclaré, faites la prière, istikhara. Et le rapporteur a déclaré que après cela, j'ai compris que le Messie promis à l'Islam n'était pas un imposteur. Et après 4 mois de prière istikhara, j'ai fait la prière istikhara pendant 4 mois. Et par la suite, j'ai vu dans un rêve que j'étais dans une mosquée qui ressemble à la mosquée Mubarak. Après la prière du matin, le Messie promis alayhi salam s'est assis quelque part et j'ai dit au Messie promis alayhi salam que je veux connaître la vérité concernant ses déclarations. J'ai dit au Messie promis alayhi salam que je veux connaître la vérité concernant ses déclarations. Et c'est ainsi que j'ai entendu une voix très forte qui a déclaré dans la langue Punjabi que celui qui devait venir est venu. Cette voix est entrée en moi et j'ai compris que celui qui devait venir, c'est-à-dire le Messie promis, c'est Hadrat Mirza Sahib. Au cours de la prière istikhara, j'ai beaucoup prié avec grande humilité. J'ai imploré Dieu, j'ai dit « Ô mon Seigneur ». Si je ne sais pas s'il est véridique ou pas, au jour de la résurrection, si tu me demandes, eh bien je vais répondre que moi j'ai prié avec grande humilité. Si c'est lui le Messie, j'ai te demandé de m'informer à ce sujet. Pourquoi ne m'as-tu pas informé? J'ai commencé à écrire au Messie promis alayhi salam. Dans ses lettres, il m'encourageait à prier avec concentration et humilité. Et c'est Molvi Abdul Karim Sahib qui répondait aux objections présentées par les ennemis de la communauté. Et c'est ainsi que par la suite j'ai dit que j'ai déjà prêté allégeance à Khaja Shamsuddin Sial. Et par la suite j'ai vécu en compagnie de son mouride Khalifa Sayyid Haider Shah. Et j'avais un autre maître. Est-ce qu'il est important pour moi de vous prêter allégeance maintenant? Le Messie promis d'Islam a dit que la vraie baïra, c'est la baïra que vous allez faire maintenant. C'est ainsi que j'ai prêté allégeance aux mains du Messie promis d'Islam. Voilà donc quelques récits que je voulais présenter. Avant de terminer, je vais présenter quelques personnes qui sont décédées, parmi lesquelles il y a Mokaram Mohtaram Fazlur Rahman Khan Saheb, qui fut amir de la province de Rawalpindi au Pakistan. Il est décédé le 29 octobre 2012 à l'âge de 83 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était ici au Royaume-Uni. Il était venu pour la Jalsa Salana et je lui ai dit de rester ici quelque temps de plus. Il était malade depuis fort longtemps, mais par la grâce de Dieu, il était très alerte et il a accompli ses tâches avec beaucoup de succès. Il était le fils de Mokaram Molvi Abdul Ghafur Saheb, qui avait prêté allégeance à l'époque du deuxième calife. Mokaram Fazlur Rahman était Ahmadi de naissance. Après ses études élémentaires en 1948, il a étudié dans un collège à Peshawar. Il a aussi fait ses études supérieures dans un collège ou dans une université à Lahore. Et il avait complété ses études d'ingénierie en 1954. Il a occupé plusieurs postes dans le secteur public et privé. Alors qu'il était étudiant, le deuxième calife l'avait choisi comme le président d'une association d'étudiants Ahmadi. Et un jour, le défunt avait organisé une rencontre entre le deuxième calife et des étudiants non-Ahmadi. Mais par la suite, le deuxième calife l'a informé qu'il était très occupé et qu'il ne pouvait pas venir à Lahore. Le défunt l'a informé que nous avons déjà informé les étudiants. Et ainsi, le deuxième calife est venu à Lahore. Ainsi, il a organisé cette rencontre avec les étudiants et le calife. Et l'amir de la Jamaat de Lahore a su cela plus tard, à savoir que le deuxième calife allait venir dans sa ville. Ainsi donc, il était très impliqué dans les œuvres de la Jamaat dès un jeune âge. Il a travaillé à Hyderabad pour une longue période et au cours du troisième califat, il fut Qaïd Khudamul Ahmadiyya de la région et il a été aussi Qazi de la région de Hyderabad. Il a servi à différents postes. Il fut président de sa Jamaat, il fut aussi secrétaire Islaoui Shad, et en 1998, le quatrième calife l'avait choisi comme l'amir de la ville de Rawalpindi. Il avait un très grand amour pour le califat et pour la Jamaat. Dans chaque réunion, il évoquait la Jamaat, les compagnons du Messie premier l'Islam et les califes de la Jamaat Ahmadiyya. Il a toujours fait preuve d'une grande obéissance envers le calife et encouragé ses enfants à faire de même. C'était une personne qui passait son temps dans la prière le matin avant de sortir. Il faisait s'asseoir ses enfants et il priait en congrégation avant de sortir. C'était cela son habitude. Et quand il était à l'hôpital, lorsqu'il sortait de son sommeil, il disait à ses enfants qu'on va prier en congrégation. Il a laissé derrière lui son épouse, ainsi que deux filles et quatre fils. Tous ses fils sont à l'extérieur, et ses filles aussi sont à l'extérieur. Sa grande sœur est décédée, et il s'est occupé des enfants de sa grande sœur. Et parmi ses nièces, il y a celle qui a été à deux reprises veuve, et il s'est très bien occupé de cette nièce. Sa nièce s'était mariée à Sangar et son mari est tombé en martyr par la suite. Par la suite, elle s'est mariée avec le frère de son mari défunt, Pir Habib Saheb, mais après quelque temps, lui aussi est tombé en martyr. Ainsi donc, sa nièce a été veuve à deux reprises et dans les deux cas, ses deux maris sont tombés en martyr. L'amir de Rawalpindi écrit que il avait un grand respect aux tous membres de la Jamaat et tous ont profité de sa gentillesse. Dieu lui a accordé plusieurs qualités, de grandes qualités, Et c'est un résultat de ces qualités que lorsque il fut Amir depuis novembre 1998 jusqu'à maintenant, il a eu beaucoup de bénédictions dans les biens et dans les personnes de la Jamaat de Rawalpindi. Et Rawalpindi était parmi les premières Jamaat. Il a servi la Jamaat pour plus de 50 ans. Cela a débuté à l'époque du deuxième calife. Il fut membre de plusieurs comités centraux. Et au cours de son émirat, on a écrit l'histoire de la Jamaat de Rawalpindi. Et on a publié cette histoire. Et en dépit de son âge, en dépit de sa maladie, il s'est assis pendant plusieurs heures pour réviser cette histoire, pour écouter tout cela avant de donner sa permission de publier cela. Pour le centenaire du califat, la Jamaat de Rawalpindi a publié un souvenir et il a travaillé dessus. Il était intéressé par cette tâche importante et il a donné des articles à écrire à plusieurs personnes. Le quatrième calife, comme je l'avais déclaré, l'avait nommé l'amir de Rawalpindi en 1998. Avant cela, pendant 4 ans et demi, il fut amir suppléant de la Jamaat de Rawalpindi. Il y a eu un changement dans l'amir. Et je savais cela, j'étais Nazir Ala à l'époque. Et il avait travaillé avec le quatrième calife en tant que Qaïd Khudamul Ahmadiyya lorsque le quatrième calife était le Sadar de la Khudamul Ahmadiyya. Je n'avais pas beaucoup de noms devant moi et le quatrième calife m'a écrit et m'a dit de proposer un nom pour l'amir de la province et de la ville. J'avais son nom en tête et j'ai envoyé son nom au quatrième calife. Et le quatrième calife l'a nommé comme Amir, en disant que je le connais, que c'est un très bon travailleur, c'est un très bon administrateur et il est très sincère. Et Inch'Allah, il va très bien s'occuper de cette œuvre. Jusqu'à ses dernières heures, il a assumé toutes ses responsabilités et de la meilleure façon. Et il était fidèle envers le calife. Il suivait toutes les indications du calife. Cela ne concerne pas uniquement ses tâches concernant la Jamaat, mais concernant ses affaires personnelles aussi. Quand je lui dis de rester ici quelque temps, son épouse ne voulait pas rester ici, je crois, mais le défunt a déclaré de gaieté de cœur que nous allons rester ici tant que vous le dites. Et il devait mourir ici et je devais diriger sa prière funéraire. C'est pour cette raison qu'Allah a fait qu'il en soit ainsi. Il était très proche du docteur Nouri. Le docteur Nouri écrit que j'ai eu de bonnes relations avec le défunt. J'étais un ami proche et j'étais aussi médecin. J'étais aussi son médecin et j'ai travaillé avec lui en tant que son suppléant. Il a déclaré que je l'ai regardé de très près et il possède de grandes qualités. Il craignait beaucoup Allah et il plaçait toujours sa confiance en Dieu. Il avait une grande fidélité envers le califat et un grand amour pour le calife. Lorsqu'il évoquait le calife, il avait des larmes aux yeux. Et il voulait tout simplement servir à la communauté. Il avait plusieurs maladies et il se déplaçait à chaise roulante. Mais en dépit de cela, il faisait beaucoup pour servir la communauté. Et jamais il ne se plaignait de sa situation. Il était toujours prêt à servir les pauvres, les épouses et les étudiants qui étaient en difficulté. et il aidait toujours toute personne qui était en difficulté financière. Le caïd de la Khuda Mullah Ahmadiyya de la province de Rawalpindi a déclaré que l'amir Saheb avait une grande personnalité, il était très gentil, il se contentait de ce qu'il avait, il avait un très grand amour pour le calife, il était toujours très patient, il préférait toujours la foi à ce bas monde. J'ai pu le regarder de très près, dit le Qaïd. Il a déclaré ensuite qu'il était comme un père. C'est quelque chose que nous devons voir partout, dans chaque amir et dans chaque président. C'est ainsi que l'on doit se comporter avec la Khuda Mullah Ahmadiyya et avec les autres organisations, avec les jeunes et avec tout Qaïd. Et le Qaïd de la Khuda Mullah Ahmadiyya a déclaré que Et le Qaïd Khuda Mullah Ahmadiyya déclare qu'autant que possible, j'étais en train de servir le défunt comme un fils. Il n'y a pas d'exagération concernant les qualités que possédait le défunt. Au contraire, il possédait plus de qualités qu'on a évoquées ici. Ensuite, il déclare ensuite qu'il a assumé ses responsabilités de la meilleure façon possible. À chaque personne, il confiait des tâches selon ses aptitudes et ses capacités. Tout membre de la communauté aimait suivre ses ordres et considérait cela comme un grand honneur. À l'égard de la Khuda Mullah Ahmadiyya, il était comme un père. Certainement, au cours de ces 10 ans, la Khuda Mullah Ahmadiyya de Rawalpindi a fait de grands progrès et c'est l'Amir Saheb qui est la cause de tous ces progrès. Il avait un très grand amour pour les membres de la Jamaat. Après les événements du 28 mai, l'Amir Saheb avait confié plusieurs tâches à la Khuda Mullah Ahmadiyya qui concernent la sécurité et la construction. Et il y a eu beaucoup de dépenses à ce sujet, mais jamais il ne s'en est soucié. Un jour, on a fait comprendre cela à l'Amir Saheb, à savoir qu'il y a beaucoup de dépenses. L'Amir Saheb a déclaré que la vie d'un Ahmadi vaut plus que ces quelques centaines de milliers de roupies. Si on perd un Ahmadi, allons-nous dire au calife qu'on a perdu cet Ahmadi parce qu'on voulait économiser de l'argent? À Rawalpindi, on n'a pas le droit de prier dans la mosquée centrale. Et on doit prier dans différents quartiers. Il y a beaucoup de tensions dans la ville. Priez pour que la situation soit meilleure là-bas. En tout cas, le défunt était très soucieux à ce sujet car il ne pouvait pas contacter la Jamaat. La Jamaat ne pouvait pas se réunir pour que l'Amir puisse les rencontrer ensemble, pour qu'il puisse les guider. Il n'avait même pas le droit de s'asseoir dans son bureau, car on avait tout scellé. Le Qaïd a déclaré que je devais organiser des rencontres entre l'Amir Saheb et les membres de la Jamaat dans différents quartiers. L'Amir partait donc dans différents quartiers pour rencontrer les Ahmadis, afin qu'ils puissent maintenir leurs relations avec eux. Et il a déclaré que je faisais des efforts pour ne pas l'amener dans de tels endroits où il y a des escaliers, parce qu'il souffrait de ses genoux. Un jour, il m'a dit, « Apportez-moi à Baitul Hamd. » Je lui ai dit qu'il y a des escaliers là-bas et vous ne pourrez pas monter ces escaliers. Il a déclaré, « Non, je dois certainement rencontrer nos amis. » Il avait un très grand respect pour les représentants du centre. C'est quelque chose d'important, à savoir que l'on doit respecter les représentants du centre. C'est vrai qu'il n'y a pas de demande de leur part. Aucun représentant du centre ne doit attendre de respect. Mais certainement, c'est la tâche des responsables de la Jamaat et des Amirs que de respecter ces représentants du centre. Un jour, le Sadar de la Khuda Mullah Ahmadiyya est venu et il voulait rencontrer l'Amir. L'Amir lui a dit de rester où il était et il est parti en personne rencontrer le Sadar de la Khuda Mullah Ahmadiyya. Quand le défunt était ici, il était très soucieux concernant sa Jamaat. Il était toujours en contact avec le Qaïd et il le guidait. Il lui demandait la situation concernant Tahrik Jadid. Par la grâce de Dieu, la position de la Jamaat est très bonne à Rawalpindi et je vais faire l'annonce le vendredi prochain. La deuxième personne que je voulais évoquer aujourd'hui est Mokaram Mohsin Mahmoud Saheb, qui est un Ahmadi d'origine afro-américaine. Il est décédé le 19 octobre dernier à l'âge de 86 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait embrassé l'Ahmadiyya en 1958. Et après avoir embrassé l'Ahmadiyya, il est passé par de grandes difficultés. Il a fait preuve d'une grande patience et d'une grande persévérance. Il fut secrétaire d'établir et pendant 15 ans, il a été sadar de la Jamaat de New York. Il aimait prêcher le message de l'Ahmadiyya. Lorsqu'il y avait un programme pour distribuer des littératures, il participait dans ces programmes avec grande ardeur. Il était très régulier dans ses prières, dans ses jeûnes. C'était une personne très humble, qui avait un très grand amour, une personne très circonspecte, qui possédait de très grandes qualités, une personne très indulgente, une personne très sincère, qui avait un très grand amour pour le calife et qui suivait tous les ordres du calife. Il était obéissant envers la Nizam et Jamaat. Il honorait tous les missionnaires et il était présent pour chaque rencontre de la Jamaat. Lorsqu'on lui demandait des conseils, il donnait toujours de très bons conseils. Tous les années, il plaçait des fleurs à la mosquée Beitou Zafar. Il s'occupait de la propreté et de la décoration des mosquées. Il faisait de grands sacrifices financiers et il contribuait plus que ce qu'il possédait. En 2005, j'ai lancé un nouveau plan concernant Al-Wasir. Lorsqu'on lui a dit de participer dans le plan d'Al-Wasir, il a demandé quelles sont les obligations. On lui a dit qu'il doit contribuer un dixième de ses revenus. Il a déclaré que moi, je contribue de toute manière 20 à 25%, mais en tout cas, il ne s'est pas arrêté là. Et puisque c'était un ordre du calife, il devait répondre à cet ordre. Et c'est là qu'il a participé dans le plan d'Al-Wasir. Il était à la retraite. Il se contentait de sa pension. Mais en tout cas, ses contributions étaient parmi les plus conséquentes. Où ses contributions dépassaient même celles des salariés. Qu'Allah accorde son pardon à ces deux personnes. Qu'Allah leur accorde une place dans son paradis. Monsieur Mahmoud, cet Ahmadi des États-Unis, a laissé derrière lui son épouse et quatre enfants qu'il avait adoptés. Qu'Allah fasse que ses enfants soient proches de la Jamaat, qu'ils puissent faire perdurer ses qualités. Priez aussi pour les enfants de Fazlur Rahman Saheb, qu'Allah leur accorde la possibilité de faire perdurer les bonnes qualités de leur père, qu'ils soient toujours sincères et fidèles envers le califat et la Jamaat. Après la prière de Jumma, je vais diriger la prière funéraire de ces deux personnes. La dépouille de Fazlur Rahman Saheb est présente. Je vais diriger sa prière funéraire à l'extérieur et vous devez m'attendre à l'intérieur.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.